Eh bien, je pense qu'on va commencer. Donc cette séance sur les troubles de l'attachement et usage des drogues. Je vous remercie d'être aussi nombreux cet après-midi en atelier. Comme je le disais à mon voisin, ce n'est pas toujours évident, donc ce qui prouve que ce sujet intéresse. Donc, j'en étais un peu à l'origine, donc je suis très content. Comme là aussi, je l'ai dit à mon voisin, je suis plutôt un somaticien, donc ça prouve que peut-être quelques personnes qui sont ici ne sont pas que des psychiatres. Et je crois qu'avec le temps, on s'aperçoit que beaucoup de choses dans la relation et dans la façon dont on construit notre représentation du monde sont liées à des choses qui se sont passées, qui nous conditionnent dès l'enfance. Et que ces anomalies, enfin ces troubles un petit peu qui peuvent apparaître sont des choses qui sont importantes et qui sont aussi importantes dans ce qui peut nous amener à consommer des produits. Donc, à partant de cette idée, on a essayé de construire un atelier autour de ce sujet qui, je crois, n'avait jamais été évoqué à THS et qui, si on regarde les publications, je dirais quelque chose qui devient, je dirais, significatif dans la façon dont on regarde les usages de drogue. Et donc, on a un panel de spécialistes qui vont pouvoir aborder ces différents sujets, donc de Lyon, de Paris et de Nantes. Donc, je vais d'abord passer la parole à Sabine Mouchemage, qui va nous parler des aspects cliniques des troubles de l'attachement chez les sujets dépendants aux substances. Donc, quelque chose qui sera un petit peu une présentation et une introduction du concept. Oui, c'est moi.
Merci. Bien. Tout d'abord, bonjour à tous. Effectivement, merci d'être présents pour cette belle journée au bord de mer. C'est très agréable pour nous. Donc au départ, je vais vous parler des aspects cliniques des troubles de l'attachement dans les abus de drogue. Et en fait, ma comparse qui avait accepté de faire la partie neurosciences, à savoir Lucie Penel de Grenoble, a malheureusement eu un empêchement qui ne lui a pas permis d'être présente aujourd'hui. Du coup, j'ai revu un peu ma copie et je vous propose, plutôt que quelque chose d'exhaustif sur la clinique et sur les neurosciences des troubles de l'attachement et des abus de substances, puisque c'est bien là le sujet, de vous donner quelques pistes, donc à la fois sur le plan clinique et en même temps sur le plan biologique et sur les neurosciences pour essayer de dégager des idées qui pourraient permettre de mieux comprendre un constat clinique de perturbation de l'attachement chez les abus de substances, chez les abuseurs de substances. Donc moi je suis psychiatre et je travaille à mi-temps à l'UHSI de Lyon qui est l'unité somatique qui prend en charge les détenus issus de 27 établissements pénitentiaires de l'interrégion pour des problèmes donc somatiques mais sur lesquels j'interviens en tant que psychiatre et donc dans une population qui est très fortement imprégnée par les toxiques. Alors pour commencer, ça m'est difficile de ne pas vous parler un tout petit peu de théorie et un peu de l'histoire de l'attachement qui prend sa source dans des phénomènes qui ont été décrits, entre autres et tout d'abord par Cora de Lorenz, dont vous avez sans doute entendu parler, qui avait pris l'habitude de se pencher sur des œufs d'oisons prêts à éclore pour devenir la première personne, la première figure qu'il verrait à leur éclosion. Et grâce à ces expériences-là, on voit d'ailleurs, je vous ai pris nos deux petites photos, des oisons qui le suivent et qui prennent leur bain avec lui. Il a décrit le phénomène d'empreinte, qui est un phénomène irréversible, et la notion d'une période de vulnérabilité, qui à mon sens est quelque chose d'extrêmement important, pendant lequel ces oisillons étaient susceptibles de reconnaître l'adulte, qui en l'occurrence était un homme et qui n'était pas une oie, comme étant la figure à suivre. D'autres expériences qui ont été menées par Harlow un peu plus tard sont aussi cruciales dans la mise en place des théories de l'attachement. C'est les notions des agrippements lors du danger chez les espèces de singes et notamment également les effets de l'isolement de la mère entre 6 et 12 mois. Entre l'âge de 6 et l'âge de 12 mois, on est encore une fois dans une notion de vulnérabilité et cet isolement ayant un impact sur le développement social. Et les bébés singes avaient alors comme réflexe l'agrippement à des mères artificielles en cage et qui étaient préférées lorsqu'elles avaient une fourrure par rapport au fait d'être simplement nourricières. Donc avec une notion comme ça de capacité d'agrippement. Ces premières expériences ainsi que d'autres théories ont conduit John Bowlby a développé les théories de l'attachement, et il en a été le premier théoricien, et il a défini la théorie de l'attachement comme les aspects des relations affectives qui touchent aux besoins de sécurité entre le bébé et le fournisseur de soins, la figure d'attachement ou caregiver. Il s'agit d'une théorie qui fait partie des théories évolutionnistes puisqu'elle va dans le sens de l'idée d'une pression de sélection sur les espèces. Faute d'interaction suffisante entre l'enfant et la mère, ou la figure d'attachement, parce que c'est pas forcément la mère qui, c'est pas exclusivement la mère qui peut être la figure d'attachement, l'attachement ne se crée pas avec le bébé. Et autre chose que je trouve personnellement extrêmement importante, c'est l'idée que c'est à la fois un facteur d'adaptation et de protection, mais également un facteur de socialisation, parce que c'est le fait d'être suffisamment protégé dans l'enfance qui permet de développer des explorations qui sont constitutives. La stratégie de survie qui est liée à l'attachement se situe à peu près en trois étapes. Tout d'abord, en cas de séparation, et on voit ça très bien chez les enfants jeunes, le premier réflexe est d'appeler la figure d'attachement. Les pleurs, les cris, tout ce qui peut faire en sorte que l'adulte, en l'occurrence, prenne soin. En cas d'échec, la deuxième étape, c'est de se taire et de ne plus bouger, avec une fonction probablement dans l'évolution de à la fois ne pas attirer l'attention des prédateurs et puis de ne pas se faire mal non plus si, par exemple, l'appel est dû au fait d'être en haut d'une falaise. Et la troisième étape est une étape de détachement qui permet à la fois d'apprendre à faire seul et en même temps de créer des liens avec d'autres. Donc, ces stratégies ont une fonction qui est une fonction également de reproduction. Ça aussi, c'est assez important, je pense. C'est que non seulement il y a la question d'être capable de survivre, mais également la question d'être capable d'avoir des enfants qui vont être susceptibles de survivre également. Donc on est déjà dans l'idée d'une transmission intergénérationnelle des capacités d'attachement. Enfin, cette théorie touche de très près la régulation interpersonnelle des expériences affectives et les capacités de lien des individus. Alors, comment on peut mettre en évidence l'attachement chez l'enfant ? Chez l'enfant, bon, en dehors du fait d'avoir tous vu un bébé qui pleure quand il est séparé de sa mère, des scientifiques, en particulier Mary Ainsworth, ont mis en place des méthodes de mesure, dont en particulier la situation étrange, qui est en fait une petite mise en scène expérimentale au cours de laquelle on observe à la fois l'effet de la séparation sur l'enfant, mais également l'effet de la réintroduction d'une personne étrangère et les comportements que l'enfant va avoir en présence du parent, en l'absence du parent et en présence de la personne étrangère. Cela permet globalement la séparation entre des enfants qui vont être considérés comme attachés de manière sécure versus d'autres qui le seront de manière insécure. Et avec un facteur important de l'insécurité de l'attachement qui s'associe chez l'enfant puis l'adulte à un niveau plus élevé de psychopathologie de manière générale. Et une valeur prédictive de la sécurité de l'attachement sur les capacités de développement. Ce développement se fait par le biais de modèles internes opérants qui sont en fait des schémas, des représentations de ce qu'est le lien à la figure d'attachement et ce qu'est le monde finalement autour, qui va dicter l'apparition de comportements. Chez l'adulte, donc, ce qui a été mis en évidence, c'est une transmission intergénérationnelle, qui, à mon avis, est quelque chose d'assez important. Finalement, malgré tout ce qu'on cherche à combattre, on reproduit quand même toujours des choses. Et les modèles internes opérants vont permettre d'attribuer des significations aux informations qui viennent de l'environnement social, en fonction des représentations qui ne sont pas d'ailleurs forcément des représentations connues du sujet. Hein. Il va y avoir une sélection des événements que la mémoire va encoder, qui permet d'interpréter et d'anticiper les comportements des partenaires sociaux, et de guider les attitudes de l'individu dans les relations interpersonnelles. Ces modèles interopérants, on peut les mettre en évidence par des techniques, enfin en particulier par un entretien qui s'appelle l'Adult Attachment Interview, qui est basé sur le fait que les modèles interopérants sont en partie inconscients, c'est-à-dire procéduraux, et en partie sémantiques, et qu'en fait, ce n'est pas ce que le sujet va dire au cours de cet entretien qui est le plus important, c'est la façon dont il le retrace, et qui, dans la façon dont il relate son histoire, qui permet, selon un système de codage un peu compliqué et qui nécessite un entraînement et des validations, et un entraînement soutenu au cours du temps, qui permet de classer les sujets selon leur profil d'attachement, sécure, détaché, préoccupé, désorganisé ou parfois de ne pas les classer du tout. D'autres modèles existent qui permettent de se rapprocher des modèles internes opérants sans y être complètement. Par exemple, les modèles individuels de relations qui ont été utilisés par l'équipe de Blaise Pierre-Imbert notamment. Pour ce qui concerne simplement l'attachement et les neurosciences, les hormones qui sont le plus impliquées dans les phénomènes d'attachement sont l'ocytocine et la vasopressine. Et là, on est dans deux circuits qui sont pour nous très intéressants, le circuit amygdalien et hippocampique du stress, mais également le circuit mésolimbique dopaminergique de la récompense. C'est là où on rejoint assez vite l'idée des toxicomanies. Avec des études au niveau des récepteurs dopaminergiques qui ont montré un polymorphisme DRD4 qui est associé à la désorganisation de l'attachement et tout un tas de travaux qui existent sur les effets prosociaux de l'ocytocine. C'est quelque chose d'assez intéressant parce que parmi tous les mammifères, celui qui naît le plus démuni finalement c'est probablement le mammifère humain. Et avec à la fois une incapacité totale de se débrouiller tout seul et en même temps des capacités énormes à avoir des liens, à créer du lien. Et vous savez qu'au moment de l'accouchement, l'ocytocine est sécrétée de manière, brutale et très importante. Ça permet à la fois des choses très physiologiques comme les contractions utérines, mais également de placer la mère dans un état hormonal qui lui permet d'être immédiatement en interaction avec son enfant, avec notamment des recherches qui montrent que la mère se met instinctivement à une distance de 30 cm qui permet à l'enfant, dès la naissance, d'être directement en interaction. Donc on est quand même dans des choses qui sont à la fois très biologiques et en même temps qui servent à favoriser tout ce lien entre la mère et l'enfant. Alors, quels aspects théoriques peut-on mettre derrière la question de l'attachement et des dépendances? Je les ai mis sous deux axes, c'est assez artificiel. Tout d'abord, la dépendance infantile à la figure d'attachement qui serait à mettre en lien avec la dépendance aux substances. Lors d'un attachement insécure de l'enfant à la figure d'attachement, il n'y aurait pas d'intériorisation d'une mère protectrice, donc conceptualisation inconsciente, et le toxique pourrait remplacer la mère sous la forme d'un objet neutre qui sert à la fois de base de sécurité dans une conduite qu'on peut maîtriser à volonté et qu'on peut répéter autant qu'on veut, où on a la maîtrise sur quelque chose qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Un autre aspect des choses, c'est ce sur quoi j'ai insisté un peu, c'est que l'attachement, ça sert à la fois à la protection, mais également la socialisation. Et que l'attachement sécure permet le développement en tant que base de sécurité exploratoire. Et là, on retrouve le modèle de Lord Ali, c'est-à-dire que la découverte de ce que je suis en me droguant se fait par la prise de risque. Là où un enfant qui aurait eu un attachement sécure n'aurait pas eu à repousser les limites pour se tester et se constituer. Alors, quelques aspects cliniques. Je n'ai pas vocation de vous présenter des choses exhaustives, mais il y a eu un certain nombre d'études qui ont mis notamment en relation l'existence d'abus de substances et de liens familiaux faibles. Et puis tout un tas d'auto-questionnaires qui ont recherché notamment les styles d'attachement chez la jeune fille qui montrent qu'un attachement insécure est associé à la présence de troubles psychopathologiques plus importants et qui inclut l'abus de substances. Pour certains auteurs, on trouve surtout des formes d'attachement de type évitant et pour d'autres, un pattern de type évitant craintif. Il y a même des études qui ont recherché un effet du type de substance. Les héroïnomanes, pour l'étude de Schindler, seraient plus évitant craintif versus les abuseurs de cannabis plutôt évitant et sécure. Les mesures qui ont été réalisées à l'aide de la AI ont été faites dans un certain nombre d'études, notamment une étude longitudinale chez des adolescents hospitalisés en psychiatrie et des étudiants qui ont tous bénéficié de l'entretien et qui ont été réévalués 11 ans plus tard pour la criminalité et l'usage de drogue. et chez qui on montre que l'usage de drogue est plus important chez les sujets détachés, quel que soit le type de pathologie psychiatrique présentée. Une autre étude chez 60 adolescents non psychotiques qui ont été hospitalisés en psychiatrie pour des troubles des conduites ou des troubles affectifs montrait que 97% avaient un profil insécure, moitié-moitié détaché et préoccupé. Et dans la catégorie détachée, il y avait deux fois plus d'abuseurs de substances. Les auteurs formulent deux hypothèses qui sont assez intéressantes, je trouve. C'est que l'attachement détaché exclurait les affects. Les sujets avec un attachement détaché excluraient les affects et développeraient plutôt des conduites externalisées. Et que les sujets avec un attachement préoccupé auraient plutôt une intensification des manifestations de détresse. Ce serait une espèce de besoin de signaler plus et qui, du coup, auraient des comportements internalisés et une recherche de drogue. Une autre étude a montré un attachement préoccupé chez les abuseurs de drogue et d'autres des attachements irrésolus. Donc, comme vous voyez, même si c'est a priori la méthode de référence, les résultats sont finalement pas très reproductibles, en dehors du fait que c'est plutôt des sujets pas trop sécures. Alors, la question de l'attachement évitant craintif, c'est assez intéressant. L'idée qui sous-tend cette théorie, c'est celle que le désir de proximité de la figure d'attachement serait présent, avec une incapacité à faire confiance et à compter sur cette figure d'attachement qui activerait en permanence le système d'attachement, alors que les stratégies comportementales suggèrent une désactivation. Pour le sujet, la recherche de proximité n'est pas une solution et il n'y a pas de stratégie qui permet de gérer la détresse émotionnelle et elle serait gérée à ce moment-là par l'abus de substance. Quelques pistes biologiques. Je n'ai pas fait très exhaustif, mais je vous ai sélectionné quelque chose que je trouvais assez intéressante. Tout d'abord, pour revenir aux animaux, parce que finalement c'est une bonne façon de comprendre les choses, il y a eu un certain nombre d'études qui ont montré une importance entre la formation du lien et les récepteurs opiacés. Notamment, la réaction de panique du cochon d'Inde lors de la séparation de la mère, c'est le cri, en même temps les cochons d'Inde ça crie toujours un peu, cette réaction de panique est antagonisée par la morphine et restaurée par l'naloxone. Les singes, jeunes singes isolés de leur mère, ont plus de consommation d'alcool, en situation expérimentale évidemment, puisque les singes ne sont pas alcooliques dans la nature. Et d'autre part, l'isolement social des animaux, alors on était chez les rongeurs, montre une augmentation d'activité des récepteurs opiacés dans les aires qui se situent, qui servent au traitement des relations sociales. Alors, une étude intéressante sur l'abus de substances qui a été menée il n'y a pas très longtemps chez des sujets dépendants à la cocaïne, à qui il a été fait passer des échelles de liens parents-enfants. Alors, ce n'est pas tout à fait les mêmes auto-questionnaires, mais on est plutôt dans la représentation de la chaleur paternelle ou maternelle, et qui montre qu'il y a une diminution du turnover dopaminergique avec une augmentation des hormones de stress chez les sujets dépendants à la cocaïne abstinents, qui vont avoir un effet, qui vont avoir un lien parent-enfant moins fort que les autres. Une piste aussi qui est extrêmement intéressante parce qu'elle rejoint la question de la transmission transgénérationnelle de l'attachement. Il y a une étude qui a été faite chez 96 usagers de cocaïne versus 105 contrôles dans la veine des travaux d'Avshalom Kaspi sur les variants du transporteur de la sérotonine. Et chez qui ils ont fait passer un questionnaire de perception de soins parental qui est significativement inférieur chez les cocaïnomanes et surtout chez les sujets qui ont le variant court du promoteur, du transporteur de la sérotonine. Et c'est là où c'est très intéressant parce qu'en fait, les autres travaux qui ont eu, il y en a eu beaucoup sur ce variant court, montrent que les sujets sont plus sujets au stress et sont également éventuellement plus agressifs. Et donc l'idée serait que ce seraient des sujets qui pourraient avoir présenté une relation mère-enfant perturbée du fait de leur comportement agressif. Du coup, on boucle la boucle. J'ai quelques aspects thérapeutiques, mais sans vouloir aller plus, sans empiéter sur les idées cliniques de Bertrand. Une étude qui a pris 187 sujets abuseurs de drogue, qui a mesuré la motivation, les stratégies d'adaptation et de coping, le style d'attachement, et qui met en avant que le style d'attachement a un impact favorable sur l'alliance thérapeutique. Donc c'est pas uniquement une idée de regarder comment ils sont attachés ou pas, c'est aussi l'idée que peut-être que si on les dépiste, on pourrait adapter une prise en charge un peu différente. Chez 208 sujets adoptés dans une étude longitudinale d'adoption, chez qui a été réalisée l'Adult Attachment Interview, il a été mis en évidence qu'il y avait plus d'abus de substance lors d'attachements insécures. On rejoint les idées précédentes, mais qu'en plus, les sujets détachés étaient moins en recherche de soins. Je rejoins encore les aspects transgénérationnels. Alors là, c'est une étude qui a été faite en IRM fonctionnel chez des mères toxicomanes, à qui on a présenté des stimuli infantiles. Il y a eu deux types de paradigmes qui ont été faits, à la fois des stimuli visuels, des photos d'enfants, heureux, neutres ou tristes, qui montrent une diminution d'activation significative chez les mères toxicomanes versus mères contrôle, dans le cortex dorsolatéral préfrontal, le ventromédial, les aires du traitement visuel, bon ça c'était plutôt logique, et le système limbique. Et un autre paradigme qui a été fait avec des pleurs et qui montre une diminution d'activation préfrontale dans les régions du traitement sensoriel auditif, dans l'insula et dans le système limbique. Je trouve que c'est très intéressant parce que finalement, la mère qui est toxicomane a une réponse qui est inférieure, du coup un lien qui va être moins fort avec l'enfant. Et probablement également une perturbation qui va se faire du fait de l'interaction négative mère-enfant au départ. Alors, c'est juste quelques pistes parce que nous, on s'est intéressé un petit peu à cette question dans une population de détenus en se disant, on ne partait pas du constat strictement de la toxicomanie, mais en fait, il y a des constats qui ont été faits, notamment par une étude de recensement de l'INSEE, qui montre qu'il y a un risque d'incarcération qui augmente avec la taille de la fratrie, avec un risque augmenté de 15 quand on a une fratrie qui est de plus de 11. Ça laisse perplexe, parce qu'on se dit, il doit se passer quelque chose, et nous, on s'est demandé si ce n'était pas les liens d'attachement. Alors, on a fait passer un auto-questionnaire, j'ai des sujets, c'est une étude totalement exploratoire avec des résultats tout à fait non reproductibles et dont je vous demanderai de pardonner les limites qui sont notamment qu'on a eu très peu de réponses. On a choisi un auto-questionnaire qui est l'auto-questionnaire de Blaise Pierre-Imbert qu'on n'a même pas utilisé dans sa version habituelle mais qu'on a pris en version Likert parce que la version normale c'est une version de tri de cartes qu'on a eu un peu peur de se faire jeter des cartes au nez. Parce que la population de détenus est une population assez impulsive et qu'on s'est dit que ça ne marcherait pas, et une évaluation psychiatrique qui nous permet d'obtenir des résultats de représentation des sujets par rapport au passé, au présent et à leur état d'esprit général sur leurs parents, sur leur disponibilité, sur l'existence, sur leur représentation générale par rapport aux liens qu'ils ont par rapport à leur famille. J'ai des résultats qui sont très pauvres puisqu'on n'a eu que 18 sujets pour lesquels on a pu faire des analyses, notamment sur le statut de toxicomane. J'ai pris que les sujets hommes. 12 étaient abuseurs versus 6 qui étaient abstinents. Donc vous voyez, il n'y a vraiment pas de quoi faire des statistiques. Mais ce qui est très intéressant quand même, c'est qu'on voit que je vous ai présenté là des résultats où le pourcentage de réponses significatives en fonction des échelles que vous avez sur la droite, 0% se sentent dans un état de reconnaissance de soutien, c'est ce qui est qualifié l'état d'esprit sécure autonome. Donc, et ça, c'est pas différent, évidemment, entre la population toxicomane ou pas. Et d'autres choses qui sont assez intéressantes, c'est une préoccupation familiale qui est très importante au niveau du présent, c'est l'échelle 2. La question de la distance familiale, alors nous, on a peut-être un biais parce qu'ils sont à l'hôpital, donc on peut imaginer qu'ils sont un peu loin de leur famille. Donc ça peut être un biais. On peut le reconnaître tout à fait. Et voilà. Et puis un niveau traumatique assez important avec un score élevé sur les échelles 10 et 11. La seule chose que je trouve assez intéressante, en plus du fait d'avoir essayé, c'est que parmi les patients toxicomanes, alors bon, c'est vraiment des chiffres faibles parce que la population est du coup pas très représentative vu qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de sujets, 2/3 sont récidivistes parmi les toxicomanes, alors que chez les non-toxicomanes, il n'y en a qu'un tiers. Ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant et que j'ai très envie d'explorer, notamment dans le sens où je pense que certains délinquants ont une espèce d'addiction comportementale au passage à l'acte. Et ça mériterait d'être explorer un peu plus. Voilà, je vais conclure pour ne pas vous embêter plus là-dessus. Pour vous dire qu'à mon avis, et j'espère vous avoir convaincu de ça, il y a des liens théoriques, cliniques et biologiques assez nets entre les perturbations de l'attachement et la toxicomanie, avec un phénomène de dépendance psychique aux drogues qui pourrait être renforcé en plus par l'effet sur les circuits biologiques. Une des questions, c'est est-ce que l'effet est superposable pour toutes les addictions ? Et d'autre part, bon, de manière modeste, nous avons des problèmes de mesure par rapport à notre étude sur les détenus, mais j'ai très envie d'aller voir un peu plus loin également pour savoir si l'effet qu'on voit est un effet détenu ou un effet toxicomanie. Est-ce que l'effet fratrie qui a été décrite par l'INSEE, c'est aussi parce qu'il y a plus de toxicomanes quand on dépasse une fratrie de 11. Ça pourrait être aussi des pistes. Voilà, je vous remercie.
Merci Sabine. Je pense qu'on va peut-être garder les questions pour la fin de l'ensemble des exposés et je vais passer la parole à Frédéric Adjé qui va nous parler des troubles de l'attachement et des troubles du comportement alimentaire chez l'adolescent.
C'est lequel ? C'est celui-là ? Ah, pardon, je n'ai pas vu.
Oui, bonjour. Donc, merci à vous tous d'être là. Donc, moi, je suis un peu en position marginale hein, par rapport à ce qui est le cœur de ce qui vous amène à ce congrès, hein, puisque l'idée, c'est que je vous parle un peu des troubles des conduites alimentaires à l'adolescence. Là, vous m'entendez, c'est bon ? Ceci dit, je pense qu'il y a beaucoup de points communs, hein, et en particulier au moment où ces troubles apparaissent, c'est-à-dire souvent à l'adolescence. Alors je vais reprendre aussi quelques éléments théoriques, hein, parce que c'est une théorie qui est quand même très complexe. Hein, on en a déjà eu des idées très riches là, avec l'exposé précédent. Je crois que ce qui est très important à avoir en tête par rapport à cette